qu'est-ce qu'il va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Mais quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale.
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, rentrons ensemble dans notre temps du débat spécial du vendredi, la conversation mondiale, consacrée ce soir à la question du prix de la vie, à l'ordre du jour justement, comment le coronavirus interroge-t-il le prix de la vie? Le vendredi, le temps du débat se transforme en conversation mondiale en faisant dialoguer deux intellectuels ou artistes français et étrangers sur la crise que nous vivons actuellement. Un projet qui remonte à la veille du confinement et qui a fourni plus de 70 textes inédits publiés sur le site de France Culture à la page Une conversation mondiale, je vous engage à aller y voir, il y a des textes formidables. Le dernier d'entre eux, publié ce midi, est justement un texte formidable signé par Vladimir Pinheiro-Safatle. Il s'intitule « Le pays des morts sans larmes ». Il est professeur de philosophie à l'université de São Paulo au Brésil et s'intéresse aux inégalités de traitement dans son pays, deuxième pays le plus touché au monde par la Covid-19, par le nombre de morts. Il dialoguera ce soir avec le médecin et anthropologue Didier Fassin, professeur à Princeton et titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France, du prix de la vie tel qu'il a été transformé par la pandémie. Dans son livre « La vie, mode d'emploi critique », Didier Fassin nous parlait, il y a 2 ans, de l'appréciation et de la dépréciation des vies selon les circonstances sociales et économiques dans chacun des pays. Et la crise a mis en avant, dans certains pays, la volonté de protéger la vie à tout prix, tandis que dans d'autres, les dirigeants ont refusé d'arrêter l'économie pour empêcher la propagation du virus. France, Brésil, mais aussi États-Unis, où se trouve Didier Fassin, seront donc au cœur de notre discussion de ce soir dans la conversation du mondial du temps du débat. Bonsoir à vous, Vladimir Safatle.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous depuis le Brésil et bonsoir à vous, Didier Fassin.
Bonsoir.
Alors, Didier Fassin, je vous poserai peut-être la première question. Ce prix de la vie est devenu depuis quelques années dans les sciences sociales une question qui est débattue, qui est mise en débat par les intellectuels. Prix de la vie, forme de vie sont des notions qui peut-être n'existaient pas auparavant et qui ont été développées depuis quelques années par certains chercheurs comme vous. Il y a eu d'ailleurs récemment, c'était cet été, un livre d'Ariel Colonomos qui s'intitulait « Un prix à la vie ». C'est quoi ce prix de la vie et comment l'établit-on ?
Pendant très longtemps, ce sont les religions et les philosophies qui se sont préoccupées de cette question et qui, dans leur grande majorité, ont donné à la vie une valeur absolue pour la religion chrétienne, par exemple. La vie est une valeur sacrée qu'il faut donc protéger et qui a donc un prix infini. Pour les philosophes, souvent au titre des droits naturels, la vie est également un bien absolu. Et au fond, la relativisation de cette idée, c'est-à-dire l'idée que la vie n'aurait pas de prix, a été introduite par les économistes essentiellement. D'abord parce qu'il a fallu, dans certaines situations, évaluer le montant des compensations aux familles de victimes. Et donc, il fallait donner une valeur financière à la vie. Mais également parce que, dans le cadre de politiques publiques, on s'est attaché à comparer différents programmes en les mesurant à l'aune du prix que la société serait prête à payer pour sauver une vie ou pour sauver 100 vies. Cette dimension financière et économique a transformé la vie d'un bien absolu à un bien relatif.
Et cela, effectivement, a été chamboulé par la crise que nous connaissons maintenant depuis 6 mois, puisque demain, je crois, cela fera 6 mois que l'OMS a décrété que nous étions en pandémie.
Alors, ça a été en tout cas mis en relief toute cette discussion par la pandémie, avec précisément un point essentiel qui est une continuité depuis les religions, les philosophies jusqu'aux économistes aujourd'hui, c'est que la question se pose de quelle vie parle-t-on ? Eh bien, on parle essentiellement d'une vie biologique. C'est-à-dire d'une vie qu'on peut quantifier, et les démographes ont des instruments pour ça, ils appellent ça une espérance de vie. Mais la question qu'on peut se poser, et qu'on doit se poser, je crois, aujourd'hui, dans le contexte de cette pandémie, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de vie, ou d'autres formes de vie, ce que j'avais appelé une vie biographique, c'est-à-dire une vie qui serait pas simplement le fait d'être en vie physiquement, mais de vivre pleinement, de se réaliser à travers cette vie. Autrement dit, une vie qui serait non plus quantifiable, mais une vie qui serait qualifiée au sens non pas de l'espérance de vie des démographes, mais de quelle vie peut-on espérer. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, que c'est un enjeu central pour la question des migrants. Bien sûr, il y a tous ceux qui meurent et donc qui perdent leur vie physique, mais il y a aussi, et peut-être encore plus nombreux, la vie indigne que sont amenés à vivre ces exilés dans nos pays. Et là, il s'agit plus de leur vie physique, mais bien de leur
qualité
vie sociale dans toute sa richesse.
Vladimir Pinheiro-Safatley, vous êtes professeur de philosophie à l'université de São Paulo. Vous nous avez fourni un texte assez formidable qui s'intitule « Le pays des morts sans larmes », après nous en avoir donné un autre il y a maintenant près de 6 mois pour le site « La Conversation mondiale » sur le site de France Culture. Et vous y expliquez justement que ces vies ont affaire à des gouvernements qui les gouvernent et que les États en particulier protègent théoriquement leur population, mais que dans le cas du Brésil, eh bien, ça n'est pas exactement la même chose qui se passe et qui donc fait que ces vies brésiliennes sont discriminées les unes par rapport aux autres selon la qualité sociale ou la place que chacun occupe dans la société.
Oui, en fait, je trouve cette discussion extrêmement intéressante parce que je crois qu'elle touche un point, surtout dans des pays qui ont affaire à des expériences coloniales, esclavagistes assez fortes, comme dans le cas du Brésil. C'est-à-dire, on voit très bien, on partage entre deux genres de vie, une vie qui peut être préservée en tant que vie d'une personne, et une vie qui, en fait, est comprise comme une vie d'une chose. C'est un peu le résultat, disons, de cette distinction dans une société esclavagiste entre les personnes et les esclaves. Dans notre cas, même après, disons, cette expérience terrible, ça continue comme un genre de cellule fondamentale de la société brésilienne. Alors on a vu pendant toute notre histoire un État dont une des fonctions fondamentales était de montrer à un secteur fondamental de la population qui la vie de ce secteur elle n'est qu'une chiffre, c'est-à-dire s'il y a des morts, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de commotion, il y aura tout simplement des chiffres. 9 personnes sont mortes dans les favelas de Paraisópolis, par exemple. Donc, ce qui est impressionnant dans cette situation aujourd'hui de la pandémie, c'est la généralisation de cette logique. Avant la pandémie, il y avait d'une façon assez claire une distinction entre les vies qu'il faut préserver et les vies qui ne sont pas dignes d'être préservées. Mais là, maintenant, c'est-à-dire l'État, il s'est désengagé d'une façon absolue de la protection générale de la société et tout se passe comme si cette chiffre, par exemple 130 000 morts, n'était pas une chose à être objet de deuil. Au contraire, c'est un déploiement normal, disons, de la vie.
Oui, et cela, effectivement, c'est le cas parce que dans la perspective brésilienne, effectivement, la question du recours au marché, de la protection de la population est très différente de ce qu'on a pu connaître dans l'espace européen pendant le déclenchement de cette pandémie. Et c'est là l'intérêt, justement, de cette conversation mondiale que de permettre de comparer, puisque une pandémie a la particularité de toucher un ensemble de pays si large qu'au bout du compte, on peut faire ces comparaisons, Didier Fassin.
On peut en effet faire des comparaisons qui sont des comparaisons à la fois épidémiologiques et de santé publique, mais qui derrière ces chiffres manifestent des manières de considérer la vie qui sont différentes. De ce point de vue, les États-Unis se rapprochent beaucoup du Brésil, et d'ailleurs les deux chefs d'État se vouent une admiration réciproque. Mais je dirais que dans le cas des pays d'Europe de l'Ouest, par exemple, et bien d'autres, la question a été à un moment donné, et elle a été d'autant plus vive que ces États n'étaient pas préparés et n'avaient pas su répondre à temps à l'arrivée de la pandémie. Ces États donc se sont mis dans la position c'est le cas notamment en France avec le gouvernement et les décisions qu'il a prises, de faire un sacrifice considérable, qui était un sacrifice à la fois de liberté publique et de droits fondamentaux, y compris ceux d'une fin de vie et d'une mort digne. Et bien sûr, ce sur quoi on a beaucoup insisté, sacrifice en termes de conséquences économiques et sociales liées au confinement et à toutes les mesures qui lui sont afférentes.
Le fameux « quoi qu'il en coûte ».
Une seule justification. Le fameux « quoi qu'il en coûte », qui est bien sûr une référence au « whatever it takes » de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Mais le « quoi qu'il en coûte », on l'a beaucoup compris au départ, en tout cas, comme étant une référence au prix financier qui serait mis en jeu. Or, le « quoi qu'il en coûte » doit être interprété aussi à la lumière de ces sacrifices que j'évoquais, de liberté publique, de droits fondamentaux, de qualité sociale. Et pourquoi tout ça? Eh bien, pour sauver des vies qui sont en fait principalement, statistiquement, on sait que les trois quarts des décès concernent des personnes âgées, donc sauver des vies principalement de personnes âgées, avec certainement là un but noble et qu'on pourrait presque dire indiscutable, si et notamment si on compare la France et le Brésil précisément, s'il n'y avait pas dans la mise en œuvre de ces vies sauvées de profondes inégalités et de profondes invisibilités qui restaient à...
Décrivez-nous justement ces inégalités à l'intérieur d'une même société qui aurait été mise en avant ou révélée d'une certaine façon, Didier Fassin, par justement cette politique globale qu'a voulu mettre en place un gouvernement comme le gouvernement français, c'est-à-dire touchant tous les Français pour pouvoir les protéger. Mais il y a, dites-vous, des inégalités qui sont sous-jacentes à cette égalité de façade.
Exactement. Alors, les inégalités se manifestent à plusieurs niveaux et sous plusieurs formes. Il y a d'abord des inégalités socio-économiques qui se traduisent en France par des différences importantes d'incidence des cas, mais surtout de mortalité en fonction des territoires. On sait que la Seine-Saint-Denis et certaines villes de Seine-Saint-Denis ont été particulièrement touchées, ce qui traduit en grande partie à la fois des conditions d'habitat et des conditions de vie, mais aussi des conditions de travail, puisque pour une grande part des habitants de ces quartiers, on a affaire à des personnes qui occupent ces métiers qu'on a appelés de deuxième ligne, et qui sont des métiers souvent précaires, qui les amenaient à être particulièrement exposés à une époque où, il faut le rappeler, les masques n'étaient pas disponibles, où il y avait des transports importants pour ces personnes. Donc là, on a une catégorie qui est très importante, mais il y a aussi des catégories plus spécifiques, et on peut penser notamment aux populations enfermées,
dans les prisons,
les personnes détenues, détenus dans les prisons, les personnes retenues dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire des étrangers en situation irrégulière. Et du reste, quand on commence à regarder d'un peu plus près ces populations spécifiques, il est intéressant de comparer ce qui se passe dans deux pays, en l'occurrence la France et les États-Unis. En France, il y a eu, par rapport aux prisons, un effort significatif qui a été réalisé à la demande notamment du défenseur des droits, de la contrôleur général des lieux de privation de liberté, des associations, d'un certain nombre d'intellectuels, des mesures qui ont été prises pour réduire la population carcérale et permettre, et pas tout à fait un encellulement individuel, mais en tout cas une diminution significative du risque lié à la surpopulation. Alors qu'aux États-Unis, dans la plupart des États, les gouverneurs ont refusé par ce qu'on peut appeler un populisme pénal pour ne pas choquer leur population. Ils ont refusé de laisser sortir des gens, même à des âges très avancés, avec des pathologies significatives et très proches d'une sortie. Donc on voit là comment dans chaque pays, ces inégalités ont été prise en compte de façon différentielle.
Vladimir Pinheiro Safatle, ce qui se passe au Brésil, c'est aussi que c'est un pays, comme les États-Unis dont nous parle également Didier Fassin, fédéral, donc évidemment avec des niveaux de décision très différents et qui peut-être justement joue sur des contradictions internes, parce que là aussi j'imagine que les questions des inégalités telles que les décrivait à l'instant même Didier Fassin sont encore plus criantes dans des favelas. Vous parliez tout à l'heure de favelas de Paraisópolis, par exemple, dans des favelas ou dans d'autres régions du territoire brésilien, et qu'il y a des tensions entre la décision fédérale, on l'a vu, et des décisions de gouverneurs locaux qui sont peut-être en tension avec les décisions du gouvernement fédéral.
Oui, ça c'est arrivé. En fait, ce sont les gouverneurs qui ont organisé toutes les mesures de sauvegarde de la population. Mais peut-être la chose intéressante pour expliquer pourquoi ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire on a une situation où l'État fédéral, il se désengage complètement de la protection de la population, il laisse au gouverneur les responsabilités, et bien sûr, pas seulement les responsabilités, mais aussi les conséquences, parce que les gouverneurs sont obligés à arrêter l'activité économique, et ça produit, surtout pour les petits commerçants, ça produit une tension sociale assez considérable. Mais l'État fédéral, il joue un peu comme un genre de chantage en disant qu'en fait, l'État fédéral n'a jamais assumé, accepté d'arrêter l'économie et de produire ces taxes énormes de gens sans emploi. Mais je trouve qu'il y a une chose intéressante pour comprendre ça, c'est qu'on peut dire que le Brésil est devenu un peu le laboratoire mondial du néolibéralisme autoritaire. Et j'insisterai un peu sur ces points parce qu'en fait, ce sont des mesures qui peuvent être d'une certaine façon exportées. On peut voir que ça peut devenir un peu un genre de autogouvernemental dans d'autres pays. Et là, on voit un peu comme ça marche. C'est-à-dire, l'idée fondamentale, c'est d'éliminer d'une fois pour toutes la conception d'un État protecteur, d'un État qui va protéger sa population, au nom d'une défense de la liberté individuelle. Parce que, par exemple, on a un président qui va à la télévision pour dire « Bien, si moi je suis infecté, c'est un problème à moi. » Et on sait très bien que c'est pas vraiment un problème à une personne seulement. Mais la chose intéressante, c'est qu'avec ça, il peut déployer un secteur de la population, il peut mobiliser un secteur de la population avec cette idée de la défense des libertés individuelles. C'est mon corps, donc c'est mes règles, donc si je veux pas porter un masque, c'est un problème à moi, si je veux être infecté, c'est un problème à moi. C'est une façon de détruire complètement toute possibilité de solidarité sociale, au nom d'une liberté qui se réalise dans l'indifférence sociale absolue.
Vous appelez la propriété de soi, d'une certaine façon, Vladimir Pinheiro-Savatelet. Je rappelle que vous êtes en train d'écouter Le Temps du Débat. Le Temps du Débat, une émission spéciale du vendredi, tous les vendredis, une conversation mondiale entre des intellectuels ou des artistes de France, mais aussi de l'étranger qui débattent d'un même thème. Aujourd'hui, la question du prix des vies après la crise du coronavirus.
France Culture, una conversazione mondiale. Il tempo del dibattito.
Didier Fassin, vous venez d'entendre ce que dit Vladimir Pinheiro-Savatelet sur cet émiettement d'une société sous le coup d'un virus comme celui-ci, en disant « débrouillez-vous, c'est mon corps, ou je me débrouille tout seul ». Il n'y a plus de solidarité générique au nom d'une conception de la propriété de soi.
Alors effectivement, cette dimension est très forte dans un pays comme les États-Unis, où il y a une tradition libertarienne qui précisément se manifeste aujourd'hui, comme du reste elle peut se manifester à un moindre degré dans d'autres pays européens. On l'a vu récemment en Allemagne. Mais je voudrais revenir sur un point important qu'a évoqué le professeur Pinheiro-Savatelet, qui est les conséquences qu'il décrivait pour les petits commerçants, pour les salariés au Brésil. Et je crois que c'est une chose qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore été sérieusement prise en compte. C'est à la fois la question des vies perdues qui vont s'accumuler dans les mois et les années qui viennent.
900 000 dans le monde pour l'instant.
Mais des vies perdues à cause des conséquences économiques et sociales et non pas à cause du virus. D'autre part, ce qu'on peut appeler des vies abîmées, c'est-à-dire des vies qui seront par cette situation, qui sont des vies dégradées. Et autant on a aujourd'hui, au jour le jour, le décompte mondial des nombres de cas et des nombres de décès qui s'égrènent au fil des informations, autant on peut être certain qu'on n'aura qu'une information extrêmement limitée et sûrement très tardive sur le coût en vie humaine qui est un coût qui a été établi dans le cas d'autres crises, et récemment celle de 2008-2009 aux États-Unis. Il y a également des études qui ont été faites au Brésil et qui montrent l'augmentation du nombre de décès qui suit ces crises. Des décès qui peuvent être liés à des suicides, qui peuvent être liés à des maladies, qui peuvent être liés à des abus d'alcool ou de produits stupéfiants, et qui se chiffrent dans un pays comme les États-Unis en dizaines de milliers de morts chaque année. Et or ces données-là ne seront pas comptées, mais ne seront pas comptées non plus. Ce que j'évoquais à l'instant comme des vies abîmées, c'est-à-dire les vies de ces personnes qui étaient déjà dans des situations précaires et qui vont être au chômage, dans les pays comme le Brésil ou les États-Unis, où il n'y a pas une bonne protection sociale pour les personnes dans ces situations, qui vont se retrouver dans des situations extrêmement, extrêmement dramatiques. Or, tout cela est totalement invisibilisé au moment où l'on est simplement à compter, ce qui bien sûr est important, mais on est simplement à compter les vies qui sont perdues à cause d'un phénomène biologique redoutable.
Vladimir Pinheiro-Savatelet, au Brésil, vous le dites dans votre papier à lire sur le site de France Culture, à la page de la Conversation mondiale, il y a cette question d'un État qui, dites-vous, est indifférent à sa population. L'indifférence est l'axe central d'une forme de gouvernement, dites-vous, à propos de Jair Bolsonaro et de ceux qui sont autour de lui. La liberté est plus importante que la vie, dit Jair Bolsonaro. Dans son livre récent, paru cet été, Ariel Colonomos, qui s'intitule Un prix à la vie, dit, il y a deux attitudes d'État. Il y a des États qui paient avec des vies en faisant prendre des risques. C'est la question de l'immunité de groupe, et on a vu comment cette question de l'immunité de groupe avait été mise en œuvre, par exemple, par les États-Unis dans un premier temps, par la Grande-Bretagne et au Brésil. Et puis il y a des États qui paient pour des vies. On paie pour payer une rançon pour des otages ou pour des vaccins pour protéger sa population. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dichotomie entre deux types d'États, les uns qui paieraient avec des vies et les autres qui paieraient pour des vies, et comment envisagez-vous le cas brésilien au milieu de tout ça?
Oui, non, la discussion est très intéressante. Je me demande en paix si c'est exactement deux types d'États ou deux images du même État, c'est-à-dire deux moments du même État.
Oui.
Parce que parfois, j'ai un peu l'impression que, bien sûr, il y a une dimension de pouvoir pastoral dans certaines actions d'État, dans certaines situations, mais il y a aussi também, aussi une dimension, disons, d'un pouvoir d'indifférence absolue qui peut apparaître aussi dans certaines situations. Malheureusement, dans notre cas, ça apparaît dans les pires des situations, que c'est une situation de pandémie. Et je suis bien consciente que c'est pas exactement le même genre de, disons, des réactions qu'on peut trouver dans les autres États, surtout dans les États de l'Europe de l'Est. Mais je crois que le professeur Fasson a insisté sur un point qui, à mon avis, c'est aussi très important, que c'est cette morte économique qui on voit d'une façon assez forte comme une conséquence de la pandémie, et une mort économique qui montre en fait l'irrationalité complète de notre système économique. Par exemple, je peux vous dire, au Brésil, pendant la pandémie, 42 fortunes, les plus grandes fortunes du pays, ont augmenté leurs revenus. C'est-à-dire, le processus de concentration de l'argent s'est agrandi d'une façon absurde dans une situation où, par exemple, dans l'Amérique latine, on estime plus ou moins 40 millions de personnes qui n'auront pas d'emploi. Comme conséquence de la pandémie. Donc ça nous met, disons, dans une tâche politique nouvelle, c'est confronter d'une façon plus forte avec les rationalités économiques de notre système.
Didier Fassin, sur ce point, mais également sur ce que je disais à propos du livre d'Ariel Colonomo sur cet État, qui, d'après Vladimir Pinheiro Sapaté, peut être l'un et l'autre et pas l'un ou l'autre.
Je crois qu'effectivement, c'est bien de cette façon qu'il faut voir les choses, l'un et l'autre. Aux États-Unis, on en a un exemple spectaculaire avec la manière dont le président a traité cette épidémie, l'a minimisée après l'avoir niée totalement, l'indifférence au fond qu'il a montré à l'égard des personnes qui mouraient ou qui étaient gravement malades,
qui fait scandale aujourd'hui avec les révélations de Bob Woodward et ses conversations avec le président, justement.
Absolument, mais qui ne tranche pas sur d'autres attitudes du président vis-à-vis d'autres catastrophes qui se sont produites dans le pays après, par exemple, des cyclones. Donc on a d'un côté cette indifférence brutale, mais d'un autre côté, le président met sur la table des milliards de dollars pour un vaccin et surtout Et pas pour un vaccin qui serait un bien commun pour la planète, mais un vaccin qui serait pour les États-Unis et pour ses citoyens. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux postures. En tout cas, pas nécessairement de contradiction.
Qu'est-ce qui, selon vous, Vladimir Pinheiro-Sapaté, puis je poserai la même question à Didier Fassin, qu'est-ce qui, selon vous, sortira dans la conception de la vie et de la mort que nous pouvons avoir chacun de cette longue crise, quand nous en sortirons, parce que nous n'en sommes pas encore sortis, on a compris en France avec le discours du Premier ministre il y a quelques dizaines de minutes, et bien que ça n'était pas fini, et ça n'est pas fini nulle part ailleurs dans le monde d'une certaine façon. C'est-à-dire, ce rapport entre vie et mort que nous avions auparavant a-t-il été profondément bouleversé? Et puisque nous posons la question du prix de la vie, cette question du prix de la vie a-t-il été profondément bouleversée dans les économies morales, pourrait-on dire, que l'on a autour de cette question dans nos sociétés, Vladimir Pinheiro-Sapaté?
Oui, c'est une bonne question, mais je crois que, disons, on ne peut répondre que par un certain genre d'espoir, c'est-à-dire, j'aimerais penser que le résultat de ces processus, c'est la conscience sociale d'une besoin, d'une solidarité institutionnalisée, c'est-à-dire, vous voyez, on était dans une situation totalement sans ressources pour cette pandémie, une pandémie qui ne sera pas la dernière, il y aura d'autres. C'est-à-dire, mais avant ça, on avait un système de recherche, un système de santé qui était totalement périmé. C'est-à-dire, on voit d'une façon assez claire la besoin d'une reconstitution d'un espace institutionnel de solidarité. Bien, en fait, dans des pays comme par exemple le Brésil, où j'ai insisté, c'est un laboratoire de néolibéralisme autoritaire, se joue une tentative d'insister que la population, elle doit s'organiser d'une façon absolument autonome à partir d'une indifférence sociale absurde, mais on sait très bien que dans cette situation, bien, ce qui va compter, ce qui va faire la différence entre les risques de certaines personnes et les risques de d'autres personnes, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire, si j'ai un accès à des hôpitaux privés, à un accès plus privilégié, j'ai un risque qui est moindre. Donc, exactement, je crois que ça joue une question absolument fondamentale de nos enjeux politiques dans les prochaines décennies.
Didier Fassin, vous qui êtes aux États-Unis mais qui observez beaucoup d'autres pays de la planète par votre travail d'anthropologue, de sociologue et de médecin, justement, est-ce que vous pensez que c'est la même chose, c'est-à-dire que on se trouvera avec cette forme d'exportation, pourrait-on dire, dont parle à l'instant même Vladimir Pinheiro-Sfathelet, d'un modèle, un gouvernement qui serait un produit d'exportation, c'est-à-dire cette indifférence et cet émiettement des citoyens ou des individus se débrouillant seuls, ou est-ce qu'au contraire, il y a d'autres modes d'exportation, plus solidaires, d'autres modèles qui s'en sortiraient mieux et qui peut-être pourraient aller ailleurs sur la planète?
Alors sur,
je vous sens dubitatif.
Sur le futur, disons que je n'ai jamais été, je n'ai jamais cru au jour d'après annoncé par le président de la République, et j'ai été très réservé sur les utopies, tout en appréciant de les découvrir, les utopies qui se sont manifestées pendant le confinement de la part d'un certain nombre de gens, d'intellectuels, d'artistes, etc. Certainement bienvenue, mais qui me laissait effectivement dubitatif. En fait, il me semble que une des leçons de cette crise aura été ce qu'on pourrait appeler une opposition entre une logique de guerre, celle qui nous a été annoncée par les plus hautes autorités de l'État, et une logique du care. C'est-à-dire du soin et un soin qui ne serait pas simplement au niveau des individus, c'est-à-dire des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, etc., mais qui serait au niveau d'une société et donc de gouvernement prenant soin de la société. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a il y a eu au cours de si on peut critiquer beaucoup la façon dont les pouvoirs publics en France comme ailleurs, avec des différences bien sûr selon les pays, l'Allemagne s'étant mieux débrouillée que la France par exemple. Mais si on peut critiquer les gouvernements, je pense qu'il faut aussi souligner le travail souvent assez remarquable qui a été fait au niveau plus local ou plus régional, qui sont à la fois des manifestations de solidarité par des associations ou des citoyens, mais aussi des mobilisations d'agents publics. On a beaucoup critiqué les agences régionales de santé, mais je crois qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites dans ce cadre-là. Et peut-être par rapport à votre question sur qu'est-ce qui a changé par rapport à la vie et par rapport à la mort avec cette épidémie. Un des éléments qui me semble intéressant, c'est la découverte, alors évidemment pas par ceux qui travaillent sur ces questions, peut-être pas non plus par ceux qui subissent ces disparités, mais la découverte des inégalités. Au fond, les inégalités de santé, elles sont considérables. Il y a 15 ans d'espérance de vie, de différence d'espérance de vie entre les blancs qui ont fait des études et les noirs qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. Il y a 13 ans en France de différence d'espérance de vie à la naissance entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Donc il y a absolument pas de nouveauté à découvrir les inégalités de santé et les inégalités devant la vie et devant la mort. Malgré tout, c'est un sujet qui n'en était pas un et qui en est devenu un, je crois, et avec une prise de conscience qui s'est faite sur ces inégalités devant la vie. Alors encore une fois, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que ce qu'on a découvert, ce sont les inégalités devant la vie biologique, ce qui est très important. Il nous reste à comprendre et à réagir par rapport à ce que sont des inégalités sur un plan biographique, sur un plan social plus large. Et on le voit très bien par cette exception sanitaire qu'a été la pandémie, où on a été capable de protéger des personnes qui étaient des sans-domicile fixe, qui étaient des personnes détenues, donc des personnes qui étaient en situation de grande fragilité, on était capable de les protéger jusqu'au moment où le déconfinement est annoncé et on recommence à mettre les gens à la rue et donc on voit bien que on découvre les conditions de vie dans les prisons. Donc on voit bien que cette autre dimension n'a pas encore été prise en compte dans toutes les inégalités qu'elle comporte.
Merci beaucoup à vous, Didier Fassin. Je rappelle que vous avez travaillé sur cette question de la vie, mode d'emploi critique. C'était paru il y a 2 ans, que votre dernier livre est un livre très original et très important pour vous, je crois, parce que c'est un livre qui utilise une autre manière de parler justement de ceux qui sont en marge ou qui ont été mis en marge de la société. Il s'intitule « Mort d'un voyageur, une contre-enquête ». C'était également aux éditions du Seuil. Et puis pour vous, Vladimir Pinheiro-Savatelet, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université de San Paolo et que vous avez donc confié à la Conversation mondiale, donc du temps du débat, un texte que nous avons publié aujourd'hui, mais qui en a un autre qui a été publié au tout début du confinement, qui s'appelait donc, qui est celui d'aujourd'hui s'intitule « Le pays des morts sans larmes ». C'est un très beau texte qui raconte votre rapport justement à la crise telle qu'elle s'est déroulée au Brésil. Merci à tous les deux d'avoir dialogué par-dessus l'Atlantique et entre Amérique du Nord et Amérique du Sud pour cette conversation mondiale. Cette conversation mondiale, d'ailleurs, vous pourrez retrouver certains des papiers qui ont été confiés pour la conversation mondiale dans le numéro qui vient tout juste de sortir de la revue papier, en particulier un texte de Nina Kouchner de la conversation mondiale et de David Bell. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Bail, Imane Gilles à la technique aujourd'hui avec nous, Jacques Azubert à la réalisation, Alexandre Manzanares,